C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile. Au XXIe siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du jet lag, des Mastercards, de la com, de la pub, au XXIe siècle quoi. C'est pas pour dire, mais toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
I have a
Salut, c'est Charles Cécile. Comment devient-on conteur, conteuse? C'est toujours un petit peu mystérieux. Et c'est souvent un incident, un accident dans la routine, dans le chemin tracé, qui fait que le conte se retrouve sur la route de quelqu'un. C'est le cas pour Sylvie Viéville, qui est d'abord passée par le mime, puis par le théâtre, avant de découvrir le travail du conteur. Aujourd'hui, direction le sud, et c'est la Montpelliéraine Paul Lator, bien connue de nos services, qui s'est rendue dans la maison de Sylvie, au milieu des pins.
Bonjour Paul.
C'est un bel endroit.
Avec le soleil qui traverse et qui brille. Mm. Qui brille beaucoup aujourd'hui. Mm. Un beau
Une
lieu.
Conteuse au milieu des pins.
Mm. Une conteuse du nord au milieu des pins, de la pinette du sud. Enfin, une conteuse du nord. Qui vient du nord, on pourrait dire ça comme ça.
D'où ?
Moi, je suis née, comme je dis, depuis que j'habite dans le sud, sud Picardie. Entre Compiègne et Soissons. Mm. Voilà, au milieu des tas de betteraves et des champs de patates. Voilà. Et maintenant, je suis au milieu de la pinède et des vignes. Un autre paysage.
On racontait des histoires ?
Écoute, moi, non, j'ai pas eu beaucoup d'histoires. J'ai pas... et puis c'est vrai que, bon, bah c'est un peu sans raconter toute ma vie, mais je suis née là-bas, mais je vivais en région parisienne en fait. Mais une vie en région parisienne qui était une vie d'enfant d'artisan, donc pas tellement une vie comme on peut imaginer maintenant en région parisienne. Voilà. Et en allant très très souvent en Picardie. Voilà. Et on racontait pas tellement d'histoires. Non, il n'y avait pas, en tout cas, il n'y avait pas de tradition. De cette sorte-là dans la famille. Ouais.
Et la première histoire que tu as entendue, tu dirais c'est laquelle? Ton plus lointain souvenir.
Mon plus lointain souvenir, c'est plus des histoires de vie, des histoires, des contes. Moi, j'ai découvert les contes très tard. Je dirais plutôt, oui, des histoires de vie, Bah, tu vois, ce qui me vient, j'aurais pensé avant, j'aurais pas trouvé ça. En fait, on allait au caté. Et en fait, c'était un peu la sortie avec les prêtres ouvriers. Et je pense que les premières histoires, ce qui me vient là aujourd'hui, hein, j'avais un peu oublié ça, bah, c'est certainement les histoires que racontaient, c'était des prêtres très engagés, les histoires que nous racontaient les prêtres, en fait. Qui n'étaient pas forcément, je pense, toujours reliées à des choses de la religion, je pense qu'il racontait les histoires de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais il racontait pas mal d'histoires de vie, parce que c'était des gens qui travaillaient à l'usine, qui vivaient en région parisienne et pas forcément dans une région facile, avec, je pense, pas mal de jeunes chez eux, un milieu très populaire. Donc je pense que c'est les premières histoires que j'ai entendues, c'est par eux.
Et le premier conte ?
Alors, le premier conte, c'est extrêmement tard. C'est extrêmement tard et je ne sais pas quel est le premier conte que j'ai entendu.
Ouais. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de raconter, toi ?
Ben moi, c'est tout un parcours, hein, parce que j'ai commencé par du théâtre gestuel. Donc, voilà, le corps, l'expression, la pantomime, et il n'était pas question de dire un mot sur scène. Mais pas question. Donc moi, j'ai fait une école de cirque et de mime, en fait. J'ai fait le Conservatoire national des arts du cirque et du mime à Paris. Qui était tenu par, voilà, c'était quoi, les années 80, qui était à Réaumur-Sébastopol. Et donc, cours de... Moi, j'avais très peu fait de choses artistiques dans ma vie. Même enfant, j'avais pas pris ni de cours de musique, ni de cours de danse. C'était pas du tout ce qu'on faisait. C'était plutôt de l'athlétisme, des choses comme cela. Et là, j'ai découvert un monde, c'est-à-dire cours de danse classique, escrime, piscine, art martial, mime, bien évidemment, 20 heures de cours par semaine pendant 2 ans, au Carré Sylvia Montfort à Paris, à l'ancien Carré Sylvia Montfort. Et en fait, les cours se faisaient, le Carré Sylvia Montfort était fermé, et ça se faisait derrière le rideau de fer. Voilà. Donc, j'ai commencé comme vraiment l'art du geste, l'art de l'expression. Voilà. Après, j'ai travaillé en compagnie. Et puis, au bout de, je ne sais pas, allez, je vais dire 7-8 ans de théâtre gestuel, où vraiment, c'était quand on me proposait de dire quelque chose, ce n'était pas possible. Et là, c'est toute une histoire. Je me suis retrouvée à passer une audition à Berlin. Il y avait encore le mur. Pour faire une tournée avec une compagnie en théâtre gestuel à Berlin. Et en fait, pendant l'improvisation, ils nous ont demandé de parler. C'était, voilà, on passait, c'était une audition. Il y avait des gens de Berlin, beaucoup d'Allemands, et moi qui ne comprends pas un mot de l'allemand. Heureusement, on me traduisait. Et je suis allée là-bas, et on devait... Je crois que le thème de l'improvisation, c'était « Quelqu'un vous juge, et vous devez... vous devez vous défendre, voilà, corporellement, avec les mots. » Et moi, avant de partir dans le métro, j'avais vu une clocharde, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, ou une femme des rues, et qui était, je pense, qui avait pas mal bu, qui était dans une rage, et qui était sur le quai de l'autre côté, et elle hurlait « Vous le voulez le voir, mon cul, ben vous allez le voir !» Et elle baissait son froc, comme ça, vers nous. Et elle faisait ça, puis elle remontait son pantalon, et puis elle allait 2 mètres plus loin, et elle rebaissait son pantalon, en criant « Vous voulez le voir ? Eh ben, vous allez le voir !» Comme ça, dans une espèce de revendication, de colère. Et j'ai pris ça comme thème d'improvisation. Bon, évidemment, je n'ai pas eu besoin de baisser mon pantalon. Mais en tout cas, j'ai fait une improvisation sur cette femme. C'était tellement troublant. Je ne savais pas cet état dans lequel elle était, mais c'était très fort, quoi. Puis comme c'était un métro à minuit, j'avais eu le temps. On avait eu le temps, les quelques personnes qui étaient sur le quai, de recevoir sa détresse, sa colère. Enfin, en tout cas, ce qu'elle avait besoin d'exprimer à ce moment-là. Puisque quand elle a eu fini, bah, après, elle est repartie, ça allait mieux. Et j'ai pris ça comme... voilà. Et bien, j'ai eu j'ai eu l'audition. Et puis après, bon, ce qui était extrêmement surprenant, et j'avais une amie... Je continue, parce que tu vois, ça démarre, c'est une longue histoire. Hein. C'est une amie donc, qui m'avait fait venir là, qui, elle, connaissait mon travail et qui travaillait dans cette compagnie. Et elle m'a dit... Tu sais, Sylvie, quand tu as commencé à improviser avec la parole, mais c'était complètement troublant, il y avait une puissance, et puis tu nous as emportés. Et là, d'un coup, ça a cheminé, et c'est après ce moment-là, quelques mois plus tard, j'ai fait une école de théâtre. Et là, j'ai travaillé le texte, le clown, la comédia dell'arte, le masque, chez Serge Martin. École Serge Martin à Paris. Après, j'ai travaillé avec des compagnies là, pendant un long, long moment. Et puis, un jour, j'ai rencontré Philippe Autier et Sophie Pavillard. Donc, Philippe Autier, comédien du Théâtre du Soleil. À l'époque, c'était à Montpellier. Et j'ai travaillé pendant presque 4 années avec lui, sur des moments, hein, ce n'était pas toute l'année. Et un jour, il m'a dit, mais là, je vais faire travailler le conte. Ça te dirait de venir ? Donc, j'ai été avec lui dans un stage de conte. Et là, je sais pas, j'ai eu l'impression de tomber dans la marmite, quoi. Mais pour moi, c'était... C'est pour ça que c'est toute une histoire. Mais évidemment, il y a des conteurs, hein, je veux dire, dans Shakespeare, il y a des débuts, c'est des débuts de conteurs. Hein. Mais je n'avais jamais rencontré le conte à part entière de cette façon-là. Et vraiment, j'ai comme l'impression d'être... Mais comment ça s'est... Enfin, comme quelque chose qui est arrivé à point nommé, comme on dit... Ce qui veut dire au bon moment, point nommé, ou pas du tout.
Si,
on peut dire, justement. Et ça a été une découverte incroyable, une liberté, ça. M'a donné une liberté à l'intérieur. Bon, en plus, je ne savais pas tout ce que ça voulait dire après, de travail de recherche et de quête et de cheminement. Mais en tous les cas, un immense plaisir, un goût dans cette relation si particulière avec le public... voilà, donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé d'abord par, pendant tout un moment, je faisais et du théâtre et du conte, et puis petit à petit, le conte a pris une part plus importante. En fait, quand j'ai fini ma formation de théâtre gestuel, j'ai travaillé avec une compagnie qui s'appelle la compagnie Elquin en région parisienne. Et en fait, j'ai travaillé au moins 4 années avec eux, donc avec un couple. Et c'était ma première expérience professionnelle. Et puis, il y a eu un moment donné dans le travail où les choses, on a fait plusieurs créations. On était en résidence, on travaillait sur Palaiseau, donc on était vraiment sur un travail de proximité, et puis on partait en tournée. Et le moment où je suis partie à Berlin, c'était un moment où il y avait un moment de doute dans le travail qu'on pouvait faire ensemble. Et c'est vrai que j'étais dans un moment de questionnement, comme la première compagnie avec qui je travaillais, et puis je sentais bien que cette histoire allait s'arrêter. Et quand je me suis retrouvée là-bas, d'abord c'était très fort parce que tout le monde me prenait pour une Allemande, alors que je ne comprends pas un mot d'allemand, que c'est une langue qui est très lointaine de moi, mais c'est vrai que j'ai un côté allemande quoi, dans mon physique. Alors c'était très particulier. Et puis c'est comme un peu fou d'aller passer une audition à Berlin. Bon, grand moment d'émotion quand même de se retrouver aussi à Berlin, avec le mur, avec ces gens qui avaient des compagnies dans des lieux incroyables, qui vivaient en communauté. Il y avait vraiment, au niveau culturel, au niveau travail, au niveau créativité, ça foisonnait de partout. Et puis, peut-être que je n'avais rien à perdre à ce moment-là. Donc, du coup... je me suis retrouvée à faire cette improvisation avec des gens que je ne connaissais pas, une langue que je ne comprenais pas. Et j'ai eu cette image très forte qui est encore là. Pourquoi j'ai fait ça, je pense que je n'ai pas réfléchi. La plus grande surprise, ça a été qu'ils aient voulu me prendre après, puisqu'on était, 40, 50. Et puis après, ils m'ont gardé pendant une semaine ils m'ont demandé de rester une semaine là-bas pour travailler avec eux et voir si le travail correspondait. Donc moi j'étais extrêmement... Comme quoi, peut-être j'étais dans un lâcher-prise, on le sait bien que c'est dans les moments de lâcher-prise qu'il y a des choses qui se font, en fait. Ce lâcher-prise, tellement important aussi pour le travail du conte. De laisser faire ce qui doit se faire. Et là, je pense que j'étais là-dedans, sans réflexion.
Et du coup, puisque c'était la première fois que tu parlais... Une jouant, quoi.
Ouais.
Que tu jouais et que la parole avait sa place. Tu te souviens si tu as repris des mots qu'elle disait, cette femme, ou si tu as dit tout à fait autre chose ?
Non, j'ai repris ces mots.
Tu as repris
En tout cas, je pense que je me suis inventé une histoire pour être dans l'histoire de cette femme, en tout cas de le transmettre. Mais j'avais dit très peu de choses et j'avais repris ces mots. Et ce que je me souviens, c'est qu'il y avait... J'étais comme sa porte-parole. Et une grande liberté. En fait, je pensais ça, j'avais vraiment rien à perdre. Je n'attendais rien, en fait, de ce moment-là. Je n'ai pas imaginé une seconde qu'on allait me prendre au fin fond de l'Allemagne pour une tournée dans l'Allemagne pendant une année. Je pense que j'étais dans une espèce d'endroit de lâcher prise, de liberté. Et ce moment d'improvisation, je m'en souviens bien. Je me souviens du plateau, de l'espace. Et je répétais la même chose comme elle. J'étais vraiment dans la répétition. Et le trouble de cette chose qui... dont j'avais été témoin.
J'imagine bien que ce travail corporel que tu as fait, par lequel tu as débuté, il fait partie de toi, de la conteuse que tu es devenue, le corps.
Ben oui, ça c'est sûr. Surtout que c'est quelque chose que je continue à travailler. C'est vraiment... Ça a été un fil conducteur, on va dire, depuis le début, en tout cas de mon parcours artistique. Alors bien évidemment... Je pense que quand j'ai commencé le conte, déjà, j'ai commencé avec une autre conteuse et un musicien qui faisait de la batterie. Et je pense que j'étais encore très très proche du théâtre. J'étais vraiment en train de faire le passage. Et maintenant, on va dire, avec tout ce temps passé plus dans le travail de l'oralité, le travail du conte... on va dire que la façon d'être avec le corps a changé. Et j'essaye, même encore maintenant, que ce rapport à la corporalité soit à peine visible. Mais bien évidemment, moi, quand je raconte, je sais toujours où est placé mon corps, où est placée ma main, où, comment je suis par rapport à ce qu'il y a derrière moi. Je pense que c'est quelque chose que j'ai tellement travaillé que c'est présent, c'est là, c'est tout le temps là. Et quand je vais, par exemple, raconter à l'étranger, dans des pays francophones, mais où, évidemment, le français n'est pas toujours compréhensible, où les gens ont des difficultés de compréhension, ou même ici, avec des primo-arrivants, eh bien, je sais comment le corps est extrêmement aidant et qu'à bout d'un moment, les gens ne se préoccupent plus de ne pas forcément comprendre chaque mot, mais sont complètement dans le sens de ce qui est transmis. Voilà. Mais c'est sûr que le travail corporel, oui, c'est quelque chose que j'ai toujours fait.
Et tu dis ça a changé.
Oui, dans le sens, que ça soit une chose moins visible. Et de laisser plus de place à l'histoire, de laisser plus de place à la mémoire, de laisser plus de place aussi, de laisser plus de place à la personne qui écoute. Parce que c'est vrai que ça, je ne sais pas si c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé ou si c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Des fois, je me pose la question. Moi, c'est vrai que si je me mets debout face à un public, je veux dire, de toute façon, la présence, elle est là. Je le sens corporellement, c'est habité. Et en fait, mon travail maintenant, c'est pas de déshabiter mon corps, mais de l'habiter de façon, on va dire, moins visible, plus souple, et de laisser... C'est subtil, hein, cette chose-là. De laisser quelque chose de plus souple, où la personne qui écoute, elle n'a pas forcément besoin de me regarder. Ce que j'ai à transmettre n'a pas forcément besoin d'être habité par un geste. N'a pas forcément besoin que je sois comme le géant au milieu de la scène. Mais il est vrai que par exemple, moi, si je suis en train de travailler sur quelque chose dans la petitesse, c'est quelque chose physiquement, je sais faire ça, rentrer dans intérieurement quelque chose qui est tout petit, ou bien dans une forme qui va être très de géant, de force, de puissance. Mais on va dire que je ne travaille à ce que ça ne se voit plus, que ça soit là. Mais après, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait. Plus souple, moins visible, plus invisible.
Ouais, je dirais ça veut dire que ça. Tu te places intérieurement dans un autre... espace, dans un autre endroit. Parce que je me dis, tu n'es pas en train de t'efforcer. J'imagine que tu as autre chose à faire. Bon, tu racontes que de t'efforcer d'être invisible. Mmh. Donc je me dis, c'est un placement intérieur différent.
Tout à fait. Une relation à la souplesse intérieure, à de la subtilité, plus subtile en fait. Voilà, quelque chose de... Habiter les choses, mais plus... les habiter pour, en étant au service de ce que j'ai à transmettre, plus qu'habiter pour habiter. Mmh. Et puis de toute façon, le corps il se place, le geste il se place, de toute façon, ça, cette chose-là, elle est là, présente. Mais en tout cas, de ne pas faire préexister une forme corporelle.
Et tu disais, maintenant je continue à travailler corporellement.
Oui. Ben, ça fait partie, moi, de mon training. Déjà, je fais un travail qui s'appelle l'art martial sensoriel. Alors, c'est encore tout un chapitre. Mais comment expliquer ça brièvement? Parce que c'est toute une histoire. C'est vraiment un travail... C'est Danny Bois. C'est un... au début, ça s'appelait la fasciathérapie. C'est une méthode, donc, Danny Bois, qui est quelqu'un de vivant, avec tout un travail intérieur et un travail de mouvement, un travail de soins aussi, hein. Les gens qui sont formés, il y a beaucoup de kinés qui travaillent selon cette méthode-là. Et moi, j'ai été formée par une femme qui fait de l'art martial, qui était troisième dan d'aïkido, et qui nous a formés, j'essaye d'être succincte, c'est un travail tellement passionnant, tout un travail du lien entre travailler sur un tatami à deux, sur le thème de la relation, avec de la lenteur, de la douceur, et avec des techniques d'aïkido. Voilà. Et moi, ce travail, en quoi il nourrit mon travail de conteuse, d'artiste, et d'un, moi c'est un travail de préparation, parce qu'il y a des mouvements, bon ben ça il faudrait les faire, c'est difficile d'expliquer, en tout cas il y a toute une gamme de travail, et puis comme il y a un gros travail sur la relation, comment je me situe par rapport à l'autre. Moi, c'est quelque chose que j'ai mis, en, on va dire, j'ai travaillé dans, c'est quoi ma relation au public ? C'est quoi ma relation à l'histoire ? Comment est-ce que quand je suis, que ce soit dans une bibliothèque, dans un collège comme ce matin, sur un plateau, c'est quoi mon volume ? Pas oublier que derrière moi, il y a du volume. Une façon de ne pas être trop devant. C'est quoi le volume avec le public ? Comment je suis avec tout le public ou pas ? Tout ce travail-là, en tout cas, ça m'a beaucoup nourrie à cet endroit-là. Et entre autres, en aïkido, par exemple, quand on saisit l'autre, si on saisit l'autre trop fort, l'autre, il n'a plus de liberté. Et on va travailler avec lui avec de la force, alors qu'on peut faire des saisies avec beaucoup de présence et beaucoup de douceur. Et voilà, tout ce travail relationnel. Puis voilà, puis moi, j'aime le travail de toute façon corporelle. Je trouve que ça remet les choses dans du mouvement interne. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà. Et puis le travail de préparation aussi avant de raconter. Ce sont des choses que je transmets dans mes formations. Comment en étant assis sur une chaise, simplement, avec des mouvements de base. Enfin, ça c'est ce qu'on appelle dans ce travail les mouvements de base. On va se remettre dans l'essentiel. On va se remettre dans le lieu du plus grand calme, le lieu du possible. Le lieu où les choses elles peuvent advenir comme elles sont décidées de le faire. Puisque de toute façon, le travail de préparation, il est fait. Là, on peut juste se mettre dans la plus grande écoute avec ce qui va arriver et avec ce qu'on a à partager avec ceux qui nous écoutent.
Les tchèques, comptent-ils, pensent à quelque chose, pensent-ils comme des tchèques, pensent-ils rouge ou pensent-ils rose, ou pensent-ils leur plaît. Jolie dame dans le tram, jolie parapluie, êtes-vous déjà une madame ou bien une petite fille? À quoi pensent les tchèques, comptent-ils, pensent à quelque chose, pensent-ils comme des tchèques, pensent-ils rouge ou pensent-ils rose, ou pensent-ils leur plaît? Vieux monsieur aux yeux si bleus, vieil imperméable, est-ce que Prague est à vos voeux ou bien insupportable? À quoi pensent les tchèques quand ils pensent à quelque chose? Pensent-ils comme des tchèques? Pensent-ils rouge ou pensent-ils rose, ou pensent-ils leur plaît? Jeune garçon aux yeux si clairs, vas-tu à l'école? Vas-tu voir ton grand-père ou bois-tu son alcool?
C'est quoi ma relation au public, à l'histoire, à l'espace? Dans cette enquête au pays des conteurs, il apparaît que le conte est décidément un art de la relation. Nous sommes en compagnie des conteuses Paul Lator et Sylvie Viéville.
Tu disais tout à l'heure que tu étais née dans le sud de la Picardie, au milieu des champs de betteraves. C'est ça?
Oui, c'est ça.
Et si j'ai bonne mémoire, ce sujet-là, tu en as fait un spectacle.
Oui, tout à fait. C'est ma dernière création qui s'appelle La vieille qui tricotait des bulldozers. Bulldozer étant. C'est l'héroïne, hein. C'est une petite fille. Donc, dans le spectacle, on la voit à plein de moments de sa vie. Et c'est vrai que je me suis beaucoup inspirée des paysages, des champs de patates, des tas de betteraves, et puis aussi des gens là-bas. Et c'est un travail que j'ai fait avec Sophie Pavillard. On a travaillé pendant une année et demie. Bon, pas tous les jours, hein, mais avec des moments de résidence. Et on a travaillé... c'est toute une histoire. Je raconte un peu comment on a... Voilà. Ce qui est très étonnant... donc j'ai contacté Sophie, avec qui j'avais déjà travaillé à l'époque où j'avais fait le travail avec Philippe Autier et elle. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas travaillé ensemble. Et je savais que ce spectacle-là, je savais qu'il fallait que je fasse un spectacle sur l'enfance. Je disais toujours, il faut que je fasse un spectacle sur l'enfance. Malgré qu'on sait bien que les spectacles, ce n'est pas avec des faux qu'on fait les spectacles. On me disait, mais pourquoi? Je disais, je ne sais pas. Mais c'est important que je le fasse. Jusqu'au jour où je me suis dit, bon, ce serait peut-être bien de le faire, parce que... À un moment donné, ça va peut-être plus être possible. Donc, j'ai appelé Sophie et je savais que ça s'appellerait La vieille qui tricotait des bulldozers. Bulldozer étant le surnom d'une petite. Et Sophie m'a dit, mais bien sûr, avec grand plaisir. Et d'ailleurs, ça fait très longtemps que j'attends que tu m'appelles. Parce que quand j'avais travaillé avec eux, on avait travaillé sur le thème de l'enfance, sur comment se reconnecter avec des mémoires d'enfance, des souvenirs ou des choses vues, entendues. Et j'avais fait des improvisations avec cette petite qui s'appelait Bulldozer, déjà à l'époque. Et elle m'avait dit, tu devrais en faire un spectacle. Mais j'avais complètement oublié.
Combien d'années entre les deux ?
Entre 93 et 2016-2017, ça fait un petit paquet d'années, plus de 10 ans. Hein. C'est ça ? Oui. Incroyable, hein ? Incroyable. Mmh. Voilà, comment les choses, elles cheminent sans qu'on le sache. Ça, c'est... Moi, c'est ça que j'ai le plus appris dans le conte. Vraiment, comment, de toute façon, il y a des choses telles... Moi, ça m'a ouvert à une... Bon, dans le théâtre, il y a ça, bien évidemment. Mais de toute autre façon. Part de mystère avec la vie, avec le monde, avec soi, avec les autres, avec ce qu'on croit savoir, avec ce qu'on ne sait pas et en fait qu'on sait. Moi, c'est vraiment quelque chose qui... Ouais, auquel je ne m'attendais pas, mais qui m'a ouvert une porte incroyable. Et il y a de toute façon, sur ce spectacle, j'aimerais un jour écrire quelque chose sur comment ce spectacle s'est construit. Parce que j'ai des anecdotes, mais à foison, de la vie, des choses drôles, des choses moins drôles, et qui ont nourri ce spectacle, mais vraiment indépendamment de la volonté. Et une des anecdotes, en tout cas, incroyable. Donc, la vieille, c'est comment, en fait, ce spectacle, c'est comment, c'est la vieille de la famille, c'est la grand-mère. Et comment une grand-mère dans une famille, elle fait ce qu'elle peut et comment elle aide les êtres à grandir. C'est un petit peu ça le thème du spectacle. En tout cas, elle est toujours pas loin, cette Eugénie. Et pareil, pourquoi je l'ai appelée Eugénie ? Mystère, souvent Sophie me dit, pourquoi tu veux l'appeler Eugénie? Je dis, non, mais elle va s'appeler Eugénie. La grand-mère de Bulldozer va s'appeler Eugénie, comme ça, une des certitudes. Et c'est une vieille, elle apparaît un tout petit peu dans le spectacle, qui tricote, qui a beaucoup d'humour, qui n'a pas sa langue dans sa poche, et qui est vraiment, qui fait partie, pour moi, c'est une imagerie comme ça de ces vieilles qu'on trouve dans les contes, qui sont là, qui savent se taire. Quand il y a besoin d'elles, elles sont là. Puis qui savent tenir tête. T'as une tête quand il y a besoin. Voilà. Et il se trouve que dans ma vie, j'ai retrouvé une cousine que je ne connaissais même pas. On a regardé des photos, et il y a une photo où je suis toute petite avec une grand-mère, mais c'est pas une de mes grand-mères. Et on discutait, puis elle me dit « Ah mais c'est incroyable, t'as une photo avec la mémé Viéville !» Je dis « Comment ça la mémé Viéville ?» Elle me dit « Mais oui, la mémé Viéville, il faut dire que cette cousine, on est cousine germaine, père, de deux côtés, mais on s'était jamais rencontrés. » Et donc elle s'appelle Viéville comme moi. Mais je lui dis « Mais comment ça la mémé Viéville ?» Elle me dit « Mais oui, qui est morte à 101 ans, qui a tricoté jusqu'à la veille de sa mort, qui avait à peine une canne et une paire de lunettes, et qui est mort à la veille de ses 101 ans parce que c'est dit que ça commençait à bien faire, et qui avait des blagues jusqu'au dernier jour, qui a blagué, qui n'avait pas sa langue dans sa poche, et c'était la mémé Viéville. » Exactement le profil de cette Eugénie que j'ai mis dans le spectacle et que je ne pensais pas connaître. Voilà. Et là, vraiment, on ne peut que s'incliner, hein, parce que jamais on m'avait expliqué, ou peut-être petite, mais j'en avais jamais entendu parler, quoi. Et j'ai cru inventer, nourrie par les contes que j'avais lus, cette vieille, voilà. Et c'est vrai que, peut-être tu veux me poser une question, par rapport au travail corporel, par exemple. Il y a cette histoire de... Donc il y a un départ, il y a des moments très reliés au conte, on va dire que c'est du récit de vie, mais c'est du récit de vie imaginé. C'est toujours compliqué un peu de définir l'écriture contemporaine. À la fois, ça commence par une légende des pays du Grand Nord, sur la vieille, la soupe et le chien. Et le, je ne sais pas si tu connais ce conte inuit qui raconte qu'il y a une vieille au début du temps qui tisse un tapis, et puis il y a un chien qui la regarde, et puis il y a une soupe qui est là, dans le chaudron. Et quand la soupe bout, la vieille se lève, elle va tourner la soupe. Et pendant ce temps-là, le chien, il défait le tapis. Et c'est comme ça. Et ça revient. Et on peut le dire 10 fois, 20 fois, 2 fois, 3 fois. Et l'histoire, elle dit... Curieusement que la soupe bout, parce qu'ainsi la vieille se lève et le chien peut défaire ce que la vieille vient de faire. Et c'est comme ça depuis le début du temps, et si un jour la vieille s'arrêtait, ou finissait son œuvre, la vie s'arrêterait, tout simplement. Donc c'est le début, ce récit commence par cette histoire. Et il y a des moments aussi... où c'est tissé vraiment entre la grand-mère Bulldozer, Thierry Lafonde et le conte, l'histoire de Sept d'un coup, à partir d'une version d'Italo Calvino, et ça devient Thierry le combattant qu'on a estourbissant. Thierry Lafonde le combattant qu'on a estourbissant. Donc c'est vraiment un tissage entre la vieille qui raconte à la petite une histoire la petite lui demande une histoire de Thierry Lafonde, parce que c'est vraiment situé dans les années 60, et la vieille qui n'a jamais vu la télé, elle commence à raconter Thierry Lafonde, qui devient Thierry le combattant qu'on a estourbissant. Conte traditionnel, voilà.
Ce qui s'est passé, c'est comme tout le monde, comme on a tous fait. Elle s'est baladée, la tête en bas, sur le côté, le pied dans la main de la mère, enfin vous voyez, quoi, comme quand elle avait de la place. Puis un jour, ça s'est trouvé qu'elle était tellement serrée qu'elle ne pouvait plus bouger dans le ventre. Et bien à ce moment-là, elle avait les fesses en bas et la tête en l'air. Alors elle est restée comme ça. Elle est née comme ça. Et ça s'est très bien passé. Tout de même vous dire qu'avant le lever du jour, il y avait eu la nuit. Une nuit de vertige et d'éclipse de lune. Et au plus profond de la nuit, il avait fallu que la mère escalade des montagnes de douleur et de joie, qu'elle grimpe de plus en plus haut, sans perdre courage. Bulldozer, elle savait que ce serait en haut de la plus haute des montagnes que les choses vraiment difficiles et vraiment intéressantes allaient se passer. En attendant, elle faisait ce qu'il fallait, de temps en temps elle aidait. Quelquefois, elle était tellement serrée qu'elle ne pouvait plus bouger. Mais elle n'oubliait pas de vérifier régulièrement la bonne mise en place de ses petites bouclettes, histoire de se présenter au monde sous un jour favorable. Au plus haut de la plus haute des montagnes, au lever du jour, elles sont arrivées. le paysage s'est ouvert. C'était le moment d'y aller. La mer a poussé un grand cri. Les boutons d'or se sont ouverts. Le coq s'est mis à chanter. La rivière s'est mise à ondoyer. La Berthe a dit « Soyez la v'là !» La Berthe savait qu'à ce moment-là, c'était main dans le dos. Les naissances par le siège, on peut juste aider. Et on a vu deux petites fesses qui sont sorties et une jambe qui s'est dépliée, qui est venue se poser avec son pied sur les violettes bleues de l'édredon et une autre petite jambe et torsion. Et hop, une main, fou, une autre main qui se sont posées sur les cuisses de la mère et... La tête qui est sortie, avec ses petites bouclettes bien en place. La Berthe a posé ses mains pour tenir le bébé. C'est à ce moment-là que la petite a regardé sa mère, avec dans le regard une surprise comme venue du fond des âges. Et la mère a regardé la petite en pleurant de rire. Et le génie a dit « Eh ben !» Cette petite, elle est peut-être pas décoiffée, mais elle est bien coiffée et par le siège toute seule. Elle aura peut-être pas de la chance, mais moi je vous dis qu'elle aura de la pugnacité et du panache. Et le père qui était dans le coin de la porte, il en a profité que personne ne le regardait pour laisser la lumière du soleil du matin éclairer sa tignasse et son cœur s'ouvrir comme une fleur.
Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Qu'est-ce que ça a changé de toi-même, la fréquentation des histoires?
Ça a changé beaucoup de choses, mais ça s'est fait petit à petit, j'en ai pas eu conscience immédiatement. Bah déjà, on va dire que ça, j'ai eu besoin du temps. La grande question, quelle est la différence entre le théâtre et le conte? Pourquoi ça n'est pas la même chose? Moi, je réponds toujours, c'est une sensation, c'est une perception intérieure. La première chose, c'est cela. Ça ne veut pas dire que l'un, parce que souvent on les compare, que l'un ou l'autre serait mieux ci, mieux ça. Alors que la différence, elle n'est pas là, c'est une place intérieure. Et ce que ça a changé, c'est qu'il y a quelque chose à la fois qui est tellement proche de soi et où à la fois il faut en avoir tellement de distance. Mais ce n'est pas la même distance que de rentrer dans la peau d'un personnage ou tout le travail en théâtre. Ben, rentrer dans la peau du personnage, trouver son regard, sa pensée, trouver sa réflexion, c'est un chemin. Dans le conte, dans les histoires, il y a une autre part de mystère. C'est pas du tout c'est pas du tout la. Dans le théâtre, c'est une sorte d'incarnation. Dans le conte, c'est comme si on avait. C'est même plus de l'incarnation parce qu'il faudrait pouvoir prendre toutes les formes vivantes qui existent sur cette terre, et être capable de passer de la pensée de la fourmi avec l'instant d'après la pensée de l'arbre qui est juste au-dessus et du pied qui va passer. Enfin. Pour moi, c'est ça, c'est une espèce de c'est une sorte d'ouverture à une pensée multiple. Donc une grande souplesse de combattre beaucoup, enfin, en tout cas moi dans mon parcours, hein, et ce que je sens maintenant, c'est-à-dire aussi tout ce qui est les fausses complicités avec le public en tant que conteur. les choses soi-disant préexistantes. Le côté d'être le conteur, la conteuse sympa.
Les choses préexistantes.
Bah, c'est-à-dire, oui, enfin, comme vous savez, hein, la princesse était belle comme dans tous les contes. Mmh. Non. Mmh. C'est quoi faire l'expérience intérieure de la beauté de l'archétype de la princesse. Parce qu'effectivement, je pense qu'à des moments, il y a eu quelques années, j'ai pu penser que la princesse, bon, c'est une femme. D'ailleurs, je racontais pas d'histoire de princesse, donc comme ça, c'était simple. J'avais pas vraiment porté mon attention sur l'archétype de la princesse. Mais des fois, j'ai pu entendre des choses comme ça. Mais c'est quoi une princesse? C'est quoi cet archétype? Qu'est-ce que ça met en route, quoi, chez la personne qui écoute? Jeune, vieille, d'ici ou d'un autre pays, c'est quoi? On peut pas se permettre de juste dire cette chose-là, c'est ne rien dire. C'est éviter de faire le travail intérieur, de plonger en soi, de c'est quoi ma princesse? Donc c'est ça, quand je dis des choses, de faire des petites ellipses, si on en a conscience. Ça va, si moi j'en ai conscience que oui, je m'en occuperai plus tard, c'est une chose. Mais de le faire par non-connaissance, voilà, c'est d'emmener les gens. En fait, peut-être d'accepter que parfois je vais emmener les gens. Enfin, je sais que je les emmène, mais que c'est aussi parce qu'ils veulent venir. Et que l'expérience qu'ils vont faire, c'est la leur. Et qu'ils vont. Enfin, comment. C'est compliqué de mettre des mots derrière tout cela, parce que c'est tellement mystérieux, quoi. En tout cas, de ne pas prendre l'imaginaire de l'autre, de ne pas vouloir à tout prix aller là et pas ailleurs, par contre de faire le travail suffisamment intérieur, de rêverie, de connaissance, enfin de cheminement, pour que ce que je propose, je le propose vraiment. Et que je ne fasse pas seulement semblant de le proposer. La nourriture. Ah, c'est tellement précieux cette chose-là de sortir d'un moment d'histoire, d'un moment de conte et de sentir qu'il y a eu, on a partagé de la nourriture. Enfin, moi, peut-être que ça m'a rendu profondément optimiste sur la vie et que sans les histoires, j'aurais pu garder le côté un peu râleur de la famille Viéville. Qui parfois peut être prédominant par rapport aux choses de ce monde et de la révolte et des choses qui ne vont pas. Moi, à chaque fois que je vais raconter, en tout cas, quand j'ai l'impression d'avoir fait ce pourquoi je suis allée là-bas, comme ce matin dans le collège, je reviens nourrie. D'un coup, je vois les arbres que je vois tous les jours et d'un coup, je les regarde. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux! Je regarde les choses avec un autre œil. Et ça nourrit cette chose-là, de ne pas oublier la beauté de chaque jour. Et aussi, des fois, l'horreur. Mais voilà, je pense que les histoires, ça m'a vraiment aidée dans cet endroit-là. Et je pense que ce n'est pas fini. T'as pas terminé. Et c'est enthousiasmant. Enthousiasmant. Et une petite anecdote de ce matin. Donc, ça va si je raconte, parce que ce matin, je racontais donc dans un collège pour des cinquièmes à Vitrolles, où on m'avait décrit la séance comme un peu, disons, avec des enfants pour qui rester deux heures en train d'écouter n'est pas quelque chose d'aisé. Il se trouve que j'étais à Oran il n'y a pas longtemps, et j'ai raconté à des collégiens et qui m'ont dit « Ah, tu vas aller, t'habites près de Marseille ». Bon, c'est bien que les gens à Oran, enfin surtout les jeunes, ont très très envie d'être à Marseille. Ils m'ont dit « Mais tu leur donneras le bonjour, tu les salueras ». Qu'évidemment une coutume aussi de là-bas. Et je suis arrivée ce matin, il était très tôt. Effectivement, ils sautaient pas au plafond à l'idée d'être là à écouter des contes. Je pense que la plupart connaissaient pas du tout les contes, ni les histoires. Et j'ai commencé par ça. Je leur ai dit, écoutez, je vous salue de la part de jeunes qui ont le même âge que vous, qui sont à Oran. Alors déjà, il y avait pas mal d'enfants. Il y en avait même trois qui ont dit « Ah, mais c'est mon pays !» Beaucoup d'enfants du Maghreb. Hein. Voilà. Et puis j'ai fait les deux heures de séance qui ont été vraiment un moment très nourrissant. Et à la fin, évidemment, ils se sont levés comme à l'habitude au moment où ça sonne. J'ai dit « Mais on peut peut-être quand même se remercier. » C'est la coutume. Hein. Et parce que vous savez, je retourne en Algérie, j'y retourne là au mois de mars, et ils vont certainement me demander de vos nouvelles. Et là, d'un coup, ils sont assis, et il y en a un qui a dit « Ah, mais partout où tu vas, là, dans tous les pays où tu vas, tu leur donnes le bonjour de ma part. » Et là, il y en a eu une petite dizaine qui ont dit « Ah, ouais, tu les salues. » Et j'ai trouvé ça magnifique, quoi. Parce que c'était pas gagné, cette chose-là. Et d'un coup, et en plus, je suis contente, parce que si je les revois au mois de mars, de pouvoir leur donner le bonjour, et ils se verront certainement jamais, en fait. Mais c'était vraiment, c'était un moment très particulier. Je me suis dit, je suis pas venue là pour rien. On est allé dans cet endroit-là. Oui, on est des êtres humains sur la terre, même si on se connaît pas, on peut penser les uns aux autres.
Get some wind for the sailboat, my friends. So if you sail, you'll get some wind for the sailboat. It could be a wind for the sailboat.
Et est-ce qu'il y a une histoire qui t'impressionne, que tu aimerais raconter, mais qui t'impressionne, que tu n'oses pas, dont tu n'oses pas t'approcher?
Il y a une histoire que j'ai tenté de raconter et que je n'ai jamais racontée, que j'avais approchée. C'est l'histoire de la plume lourde, certains l'appellent comme ça, un grand guerrier qui a réussi tous ses combats. Je ne sais pas si tu connais cette histoire, qui a réussi tous ses combats, qui est vraiment réputé. À chaque fois, quand il rentre, on fête ses victoires. Les femmes sont fascinées, invincibles. Et il va combattre un oiseau qui peut prendre toutes les formes et puis qui peut se transformer en boule de feu. Et en fait, quand il va combattre cet oiseau, dans cette forêt où se trouve l'oiseau, je crois que certains l'appellent Bonoba, cet oiseau, l'oiseau mythique. Au moment où il combat avec cet oiseau, ils sont presque à puissance égale. Mais ce guerrier arrive tout de même à combattre l'oiseau. L'oiseau se transforme en boule et il y a juste une toute petite plume en fait qui tombe de l'oiseau, dernier reste. Le reste tombe calciné au sol. Mais il y a une petite plume là qui vient se poser sur l'épaule du guerrier. Et là, il est terrassé au sol. Il ne peut plus bouger. Et il passe par tous les états. Il est du désespoir à la fureur. Il ne peut pas bouger un seul de ses muscles. Et selon les versions, c'est un enfant ou une femme, avec un petit en tout cas, toujours, qui vient, qui souffle sur la plume. Et la plume s'envole. Et il est complètement changé par cet événement, quoi. Et il rentre, il y a une grande fête, mais lui, il n'est plus à la fête, il ne peut plus en fait se réjouir de la même façon. Et je crois que c'est une, pareil, il y a plusieurs versions, c'est une vieille qui voit qu'il y a quelque chose qui n'est plus pareil, il n'a plus le même goût à la vie, et il pose la question, mais pourquoi? Et il y a je crois que la réponse de la vieille, c'est pour qui ne connaît pas l'oiseau Bonoba, l'oiseau invincible, une plume est une plume. Donc voilà, j'ai jamais réussi à la raconter. Enfin là, je viens de la raconter en quelque sorte, mais je ne l'ai jamais racontée sur vraiment comment ce rapport du guerrier avec... Je ne sais pas quoi d'ailleurs, c'est peut-être cette chose hein, de l'innocence, justement de celui qui ne sait pas, de l'enfant. Je n'ai jamais raconté.
Mais merci de l'avoir.
Voilà, comme quoi finalement, pour la première fois. Ouais. Côté invincible.
Bah, merci Sylvie.
Bah, écoute, merci Paul.
Merci Sylvie Viaville, merci Paul Latour pour cet entretien. Dans cette émission, vous avez entendu Satyagraha, célèbre morceau de Philip Glass, une chanson de Dick Annegarn et aussi un extrait du spectacle La vieille qui tricotait des bulldozers de Sylvie Viaville. Si vous voulez nous laisser des commentaires, vous pouvez comme d'habitude le faire sur la page Facebook C'est pas pour dire. Pour écouter cette émission et ses presque 100 petites sœurs, vous pouvez le faire sur le site www.c'estpaspourdire.fr. Et je vous rappelle au passage que plus ces émissions circulent, plus ça nous plaît. Et que si dans vos festivals, vos bibliothèques, vous voulez créer des points d'écoute, faites-le nous savoir. Nous imaginerons ça avec vous. En attendant, amis du conte, salut!
C'est pas pour dire, était comme chaque mois produite et réalisée par la compagnie La Lune Rousse sur une idée de Anne-Gaëlle Goduchot et présentée par Charles Cécile.